Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface. Les Caprices de Thérèse, dégustez l'excellence. Chut, on écoute la télé avec votre agence de voyage Les Ailes du Partage. Amandine, votre interlocutrice privilégiée, vous proposera voyage à la carte et sur mesure, adapté à votre budget dans le monde entier. Passez du rêve à la réalité en réservant votre prochain voyage au 06 72 32 47 67 et sur voyage-solidaire.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Allez, on commence tout de suite par le sommaire de ce tout nouveau numéro de Chut, on écoute la télé, l'hebdo, avec aujourd'hui déjà une interview mère-fils dans Demain nous appartient. Vous les adorez dans le rôle d'Erika et Marceau. Charles Bousquet et David Mousset nous rejoignent dans une poignée de secondes. Et puis, grande spéciale aujourd'hui, T36, la série événement qui débarque ce soir sur TF1 à l'occasion. La productrice Iris Boucher, le réalisateur Fred Garçon et deux des héroïnes, Nolwenn Leroy et Sophia Issaidi, ensemble seront nos invités exceptionnels. Et puis, en fin d'émission, on parlera également de la saga d'été de France 2 qui démarre mercredi soir à 21h10 et déjà en ligne sur France.tv. Ça s'appelle L'Or Bleu, la productrice Aline Panel et l'héroïne Barbara Probst seront nos invités. Alors c'est parti, on démarre maintenant sans plus tarder avec Charles Bousquet et David Mousset.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Bon, j'avoue qu'on en rêvait. Notre coup de cœur télé aujourd'hui est consacré à Demain nous appartient, votre série vous suivez du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Et une interview mère-fils, j'en rêvais depuis quelques mois, tellement l'arrivée d'Erika et de Marceau dans la série, franchement, a fait beaucoup d'étincelles. Charlie Bousquet est notre invité. Bonjour Charlie.
Bonjour.
On a déjà eu la chance d'avoir Charlie à la rentrée, mais toute seule. Oui. Mais son fils de fiction est là, David Mousset, alias Marceau. Bonjour David.
Bonjour.
Merci d'être là tous les deux. Alors c'est vrai que ce duo mère-fils a fait une arrivée tonitruante dans la série.
Fracassante,
je dirais même. Mais je trouve, David, que franchement, t'as réussi à rendre Marceau tellement tête à claque et attachant à la fois.
Oui, c'est ça.
Ça, c'est un tour de force.
Il est attachant.
T'as ressenti ça toi aussi, Charlie?
Vite. Oui, oui, oui. Nos premières scènes, on était tout de suite dans le vif du sujet, dans la rivalité, mais avec déjà beaucoup d'amour. Donc c'était, en fait, c'était quand même très bien écrit. Donc ça a été facile. Et puis nous, je crois que voilà, ça a été assez évident tout de suite.
Ça a matché tout de suite avec Charlie, David.
C'est vrai que j'appréhendais un petit peu, parce que quand on dit ouais tu vas tourner un an avec une dame qui a pas ton âge, il y a des a priori qui sont. La première fois qu'on s'est rencontrés, je sais pas, on a directement matché, on a parlé pendant 4 heures, le train il avait une heure de retard et c'était pas chiant quoi.
C'est pas chiant, c'est rassurant.
C'est pas mal, c'est pas mal.
C'est que il y avait, on était directement sur la même longueur d'onde, même sur la première scène qu'on a faite, on avait hâte de jouer ensemble alors qu'on avait même pas joué de base ensemble et on se répondait, on matchait, on improvisait de manière très naturelle sans qu'on le demande parce que les scènes aussi étaient bien écrites. J'avoue que je trouve qu'il y a vraiment un effort d'écriture sur nos scènes. On sent qu'il y a de l'amusement derrière.
Alors dès qu'il y a un mauvais coup au lycée, c'est lui. Dès qu'il y a le feu au lycée, c'est lui. Oui. Dès qu'il se passe quelque chose entre Bart et Erika, c'est lui.
C'est lui, c'est toujours lui. Et moi, je le protège, je le défends. Bon.
Pas toujours facile, hein. Contre vents et marées par moments. C'était un peu inscrit, David, dans la Bible du personnage. Tête à claque, fouteur de merde, en quelque sorte. Ou pas du tout.
Quand m'a vendu le personnage, on m'avait plutôt dit, on lui donnerait le bon Dieu alors qu'il le faut pas. Donc,
c'est pas mal, ça.
Exactement, ouais.
C'est vrai. Oui. Au départ, t'as pas le physique du petit con. On a envie de lui faire confiance. C'est ça qui est chouette.
T'as claqué avec un visage d'ange. Ouais, c'est oui, pas mal, ça.
Ah, ben, c'est complètement ça. Ils ont dit, ouais, on va lui mettre des petites mocassins, une chemise, et il va faire plein de conneries, en fait. Mais c'est vrai que je pense que je vais donner directement un truc arrogant et insolent pour que ça contraste encore plus et que ce soit plus marrant pour que j'ai des choses à donner dans l'improvisation et essayer de trouver quelque chose de marrant. Je trouvais que c'est ce qui matchait le mieux quand je recevais les scènes, en fait. Quand on étudie les scènes, on regarde, on essaie de mettre à notre sauce et tout pour trouver la punch. Surtout avec un personnage comme ça, je suis obligé de trouver une punchline pour qu'on me retienne que moi dans la séquence. Quand il y a Marceau, on est obligé de... Il est obligé de prendre la vedette dans une séquence, Marceau. Il est là pour ça, il est là pour prendre la lumière parce qu'il veut la lumière.
Mais c'est ça qui est assez énorme, c'est qu'il crève l'écran à chacune de ses apparitions et on sait qu'il va se passer quelque chose, quoi.
Oui, puis parce qu'il est créatif, c'est-à-dire qu'une scène, elle est écrite et puis après on nous la donne, on réussit à faire, quand ça se passe bien avec un partenaire, on réussit à s'amuser et en faire parfois autre chose et l'emmener plus loin. Et David, il est très fort pour ça.
Alors c'est difficile en plus, hein, Erika est proviseur du lycée dans lequel Marceau est. C'est des fois compliqué la relation au sein du lycée aussi dans cet univers-là.
Bah c'est ça qui est intéressant, c'est que je suis toujours un peu le cul entre deux chaises, pardonnez-moi l'expression, mais c'est ça, je veux le défendre. En même temps, j'ai un statut qui me permet pas de défendre quelqu'un qui fait que des bêtises. Donc je suis toujours entre deux eaux, je suis toujours en train de jongler sur ce qui se passe et ça rend le rôle très très intéressant.
Il y a une scène qui m'a tellement fait rire. Quand Bart et Erika ont essayé de faire croire à Marceau qu'il allait être envoyé à Pétaouchnotte-les-Bains pour être en pension en quelque sorte, mais qu'il n'allait plus mettre les pieds à 7 ou encore le week-end, mais vraiment, voilà. Et la tête de Marceau, comme ils l'ont fait marcher jusqu'au bout pour vraiment essayer un peu de le calmer, mais c'était pas gagné quand même. Hein.
Ah bah clairement. Hein.
Il a balisé quand même.
Oui, non. Mais c'est, en fait, c'est dans ces moments-là où à chaque fois on essaie de trouver les failles de Marceau parce qu'on le rend insolent, ingrat, limite des fois un tatillon méchant. Mais c'est dans ces moments-là qu'on se dit bon allez, on va essayer de lui trouver une âme et tout, on va essayer de.
Pourtant, c'est un grand amoureux, hein, pourtant, hein. Parce que Violette, il est pas insensible au charme de Violette. T'as vu, je suis tout, hein. Je rate rien.
Il se prend des vestes.
Non.
C'est pas tout, le garçon, hein. Question amour, c'est pas génial, hein.
Marceau, dans Demain nous appartient, niveau amour, il est éclaté, hein. Il arrive à rien pécho, c'est catastrophique. Mais je pense que c'est ça aussi qui le rend attachant. C'est parce qu'il a une grande gueule, mais c'est que de la gueule, quoi. Il arrive pas.
Arriver dans une quotidienne, ça t'a fait peur? Le rythme de tournage, l'investissement que ça pouvait donner, jouer un personnage sur la longueur, ou au contraire, c'était un challenge pour toi, quelque chose d'intéressant?
Moi, j'étais trop content, moi. Non, franchement, quand on m'a dit, quand tu sors du cours Florent, et que tu vois plein d'anciens élèves qui disent, ouais, c'est une galère et tout, y a pas de taf, et que là, on te dit, ouais, pendant un an, tu vas avoir un rôle phare dans une série qui marche déjà très bien, et tu vas être entouré d'acteurs qui ont du talent, qui ont de la bouteille, etc., j'étais trop content. J'ai pas eu peur, moi, j'avais hâte. Dès que j'ai été pris, je voulais tourner le lendemain, moi.
C'est un beau cadeau pour les petits gars originaires de Charente-Maritime, tout ça.
Ouais.
Et pour toi, Charlie, quand tu l'as vu arriver, les premières répliques, t'as su tout de suite ce qu'allait se passer avec lui?
Oui, c'est que, voilà, on s'est rencontrés dans le train. On allait tous les deux à 7. Il vient vers moi en me disant vous êtes ma mère. Pardon. Non, je crois pas.
On va se tutoyer déjà. Je pense qu'on va travailler pendant quelques temps ensemble.
Et du coup, voilà, il m'a dit bah si, en fait, on va travailler ensemble sur. Et effectivement, on avait très peu d'infos sur nos rôles. Même moi, on m'avait dit des choses qui n'existent pas aujourd'hui. Je pense que ce qu'on a donné a donné envie aussi d'écrire vers une autre direction. Mais dès la première séquence, on s'est régalé. Voilà. Donc voilà, moi pour moi David, c'est mon cadeau.
Alors là, on vous voit un petit peu moins souvent en ce moment parce que c'est vrai que ça a été beaucoup le retour de Leïla dans la série, mais vos aventures futures, est-ce qu'on peut dire que il va y avoir un retour un peu au cœur de l'action de ce trio Bart, Erika, Marceau?
Il va y avoir plein de surprises. Voilà.
Et ça va concerner un peu la mère et le fils?
Je pense que c'est ça. Là, on va voir Marceau de son côté et Erika de son côté et on va les attendre pour la rentrée.
Et on a déjà hâte de voir ça. À côté de ça, Charlie, tu tournes partout en France avec Payette jusqu'à la fin juin. On va pouvoir te découvrir sur scène aux côtés de Stéphanie Pasternkamp, Philippe Carrois évidemment, qui est aussi le metteur en scène et l'auteur de la pièce, et Denis Maréchal, pour un quator mais haut en couleur. Vous allez passer 1h40 de folie. Vous allez voir, avec une soirée de Noël qui ne se passe pas du tout comme prévu. Autrement, ça serait pas marrant.
Qui part en sucette, on peut se le dire.
Cacahuète, ça c'est clair. Ça part en cacahuète totale. T'as pu assister, toi, à une des représentations. David, alors, comment tu l'as trouvé, maman, sur scène?
J'ai trouvé exceptionnel. J'ai trouvé qu'elle regorgeait de talent et qu'elle montrait une autre facette qu'elle montre pas du tout à l'écran. Et que je pense qu'il faut en voir beaucoup plus de Shirley Bousquet maintenant. Il faut arrêter de la mettre dans des petites salles comme ça. Il faut aller au cinéma, là, et lui mettre des gros rôles. Elle a clairement les épaules.
C'est pas mal, t'as vu?
Ah ouais, mais je l'aime, c'est mon fils. Ah
oui, je vois ça. David, pour toi, est-ce que ça t'a ouvert des portes? Est-ce qu'il y a des choses qui arrivent?
Tout ce que je peux dire, c'est que TF1, oui, ça m'a ouvert des portes, mais Shirley Bousquet, ça m'a ouvert des portes aussi. Hein.
Expliquer pourquoi il dit ça, c'est parce que je lui ai présenté mon agent qui a eu un coup de cœur pour David et depuis, non mais il a tellement de rendez-vous.
Il a tellement de castes.
D'essais. Mais même moi, j'en ai jamais eu autant. Il en a 5 par semaine, j'ai jamais vu ça. Donc forcément, il va exploser notre David, quoi.
Bon, bah, il aura été dans Chute, on écoute la télé et ça, on est bien heureux en tout cas de vous avoir eu pour cette petite interview. Mère-fils, c'était une belle occasion en tout cas. Merci infiniment à tous les deux d'avoir été avec nous. On va continuer à suivre vos aventures. On a compris qu'il allait y avoir une rentrée mouvementée, en tout cas chacun de votre côté pour le personnage, qui j'espère vont se retrouver évidemment dans cette arche aussi. Et puis on vous dit à très bientôt.
À très bientôt.
Merci David.
Je vous en prie.
Merci Charlie.
Merci.
Allez, dans quelques instants, notre spécial été 36, Iris Boucher, Fred Garçon, Nolwenn Leroy et Sophia Issaidi débarquent dans Chut, on écoute la télé. À tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite. Le rendez-vous des stars. C'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
J'aime quand on fait les sales gosses, qu'on parle mal sur les gens, qu'on se moque d'eux un peu tout le temps, quand on sourit en s'embrassant. J'aime pas quand tu me fais des reproches, quand t'es loin trop souvent, quand je passe ma vie à t'attendre, qu'on se parle que derrière un écran. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça va me faire? La lune éclaire nos rires quand le soleil peut plus le faire. J'aime quand on fait les sales gosses, qu'on se lève un peu trop tard. On peut se garder nos reproches. J'aime trop quand on s'égare. J'aime quand on fait les sales gosses, qu'on parle trop bruyamment, qu'on nous trouve un peu gênant, quand on s'oublie en se regardant. J'aime pas quand c'est toi qui raccroche, quand la vie nous sépare, quand on se manque tellement fort qu'on n'arrive plus à se dire au revoir. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça va me faire? La lune éclaire nos rires quand le soleil peut plus le faire. J'aime quand on fait les sales gosses, on se lève un peu trop tard. On peut se garder nos reproches. J'aime trop quand on s'écarte. Et quand on aura des sales gosses, on leur racontera nos histoires. On leur fera peut-être des reproches. Au fond, tu sais que c'est pas si grave, car on était des sales gosses. Ouais, on était des sales gosses. On se lève un peu trop tard. Ouais, on était des sales gosses.
Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé est consacré à l'été 36 qui débarque ce soir sur TF1. Vous allez pouvoir découvrir les deux premiers épisodes de votre saga avec Iris Boucher qui est notre invitée. Bonjour Iris.
Bonjour, merci de me recevoir.
Comme d'habitude, tu sais que t'es la bienvenue ici. Tu produis de magnifiques séries et celle-là n'est pas en reste. C'est vrai qu'on en parlait dès le bazar de la charité, de la volonté de faire vraiment un triptyque sur quatre femmes fortes. Alors il y a eu les combattantes ensuite et c'est un peu effectivement la troisième série de cette collection consacrée consacrée aux femmes.
Tout à fait, mais avec un pas de côté, parce que quand il s'agissait de réfléchir à une suite, on discutait avec TF1, on a fait donc la Première Guerre mondiale. L'idée est apparue de faire la Deuxième Guerre mondiale, mais je trouvais ça un peu décevant. Et quand on regarde entre 14-18, 39-45, il n'y a pas d'événement fort particulier. Or, l'été 36, dans cette période-là en France. Et l'été 36, c'est évidemment un moment extraordinaire, le Front populaire, les premiers congés payés, mais c'est une parenthèse de bonheur, c'est une bulle de joie où les ouvriers, donc pour la première fois, peuvent partir en vacances en étant payés. Et pour rentrer dans cette bulle de joie et de bonheur, on a opté pour un genre ludique qui est le Murder Mystery Case à la Agatha Christie.
C'est une sorte de Cluedo qu'il va falloir résoudre effectivement avec plein de soupçons, de fausses pistes, de vraies pistes que vous allez voir. Il va falloir s'enfiler effectivement un petit peu là-dedans pour essayer de comprendre le destin effectivement de ces quatre femmes qui vont s'entrecroiser. On va y découvrir effectivement un casting de fou, Constance Gay, Sophia Essaïdi, Nolwenn Leroy, Julie Debona et puis un meurtre qu'on va découvrir dès le début, celui de Jacquard, le procureur un peu détesté, et c'est vrai que tout le monde peut lui en vouloir, en tout cas à ce procureur, et ça va pas faciliter la tâche aux enquêteurs.
Absolument, Arnaud Binard, donc qui joue le procureur Jacquard, qui n'est pas détesté de tous, au contraire, même très aimé par le personnage de Julie Debona, qui est sa maîtresse, folle amoureuse, peut-être tellement folle amoureuse qu'elle est capable de du pire aussi si elles se sont rejetées. En tout cas, c'est une des pistes que va poursuivre le commissaire Raven, notre formidable François-Xavier de Maison, accompagné par donc Léonie, jeune, pas enquêtrice, mais juste auxiliaire de police, parce qu'à l'époque, les femmes n'avaient pas du tout ce genre de grade à la police. D'ailleurs, pour la petite histoire, la police a ouvert ses portes aux femmes seulement en janvier 1936. Donc c'est très très récent. Et pour compléter ce petit tableau de la condition féminine de l'époque, n'oublions pas qu'en 1936, la femme est considérée comme une mineure. C'est un enfant. Elle n'a pas de droit de vote, elle n'a pas de chéquier, elle ne peut pas signer de contrat sans l'accord de son mari. Et ça, on a un peu tendance à l'oublier. En tout cas, nous, on a créé des personnages de femmes qui luttent contre ça, qui s'élèvent contre la domination masculine et qui poursuivent leur propre voie.
Et qui permettent d'avoir des séries comme ça, de faire des petites piqûres de rappel quand même, hein, pour se souvenir de comment ça a été avant, que les choses ont quand même un peu évolué malgré tout, même si c'est pas assez encore aujourd'hui, ça c'est sûr et certain. Mais le patriarcat à l'époque était vraiment omniprésent.
Non, elles ont beaucoup évolué. Il faut quand même aussi dire que, heureusement, on n'en est plus là. Mais on en profite par moments. Il y a des petites piques. Je me souviens d'une réplique de Pascal Elbé, qui joue un grand patron, très content de lui, très fier de son succès, qui balance à Sophia Essaïdi, son personnage d'Eugénie, qui, elle, est donc une ouvrière syndicale. Alors vous avez quoi encore comme folle idée? Les femmes au même salaire que les hommes peut-être, en rigolant. Et on aime bien ça, de dire qu'à l'époque, c'était quelque chose d'absolument inconcevable que la femme soit l'égale de l'homme. Et pourtant, on a quand même eu la déclaration des droits de l'homme, où normalement, on est tous citoyens, on devrait avoir les mêmes droits.
Alors c'est vrai que si on est parti sur Bazar de la Charité et sur les combattantes d'un fait plutôt grave, historique, un incendie pour le Bazar de la Charité, la guerre pour les combattantes, là on part plutôt d'une période joyeuse, presque insouciante de l'entre-deux-guerres pour aller tout doucement effectivement vers quelque chose de plus dramatique, hein.
C'est tout à fait ça. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est une bulle de bonheur parce que c'est l'été. On est au mois d'août, on est sur la Côte d'Azur, il fait beau, il y a la mer et on est en vacances. C'est extraordinaire pour tous ces gens-là qui n'ont pas du tout cette habitude-là. Mais on est en 36 dans le sens où c'est 3 ans avant 39. Donc, il y a déjà la montée du nazisme, il y a déjà la guerre en Espagne et le personnage de Clément Aubert, donc qui joue le mari de Julie Debona, donc le banquier Ackermann, lui, il sait ça. Il sait que sa famille est en danger et il veut les mettre à l'abri. Il a compris que ce qui se passe en Allemagne va arriver en France. Donc, il y a quand même toute une lame de fond sur cette série qui est beaucoup plus sérieuse et qui alerte sur les dangers qui planaient déjà sur le monde à cette époque-là.
Alors Iris, c'est vrai que ces personnages, on va voir qu'ils ont des destinées qui vont s'entrecroiser, puisque Léonie, qui joue la jeune recrue de la police, est la demi-sœur de Julia, qui est incarnée par Nolwenn Leroy, qui est la gouvernante en chef du fameux hôtel, évidemment, où va se passer le meurtre de Jacquard. Et en même temps, après, on va découvrir aussi que Julie Debona, Blanche et Eugénie, elles sont sœurs, mais que Eugénie a coupé les ponts complètement avec sa famille, parce que même si elle est partie vers le monde ouvrier, elle est issue de la grande bourgeoisie de l'époque.
Absolument, c'est une transfuge de classe, mais dans l'autre sens. En fait, elle a vraiment tourné le dos à son milieu bourgeois et elle a tourné le dos à l'argent aussi parce qu'elle s'est mariée avec un ouvrier, Jean Berthier, qui est interprété par Simon Herlaché. Donc, elle est partie par amour, mais aussi par conviction parce qu'elle n'a pas seulement épousé Jean, elle a aussi épousé un combat qui est le combat des ouvriers. Elle est devenue ouvrière elle-même, syndicaliste, et depuis, elle se bat aux côtés de son Marie pour améliorer les conditions des ouvriers. Et parmi les choses qui sont dites aussi dans la série et qu'on met en avant, il y a un enjeu qui compte beaucoup pour elle, qu'elle porte avec son mari, c'est aujourd'hui ça paraît fou. Honnêtement, à l'époque quand on a fait les recherches, je me suis dit mais je me souvenais plus qu'on était dans ce monde-là, on dirait le Moyen-Âge. On engageait des enfants de 12 ans à l'usine. Et elle, son combat, c'est d'amener l'âge de l'embauche à 16 ans. Ce que les riches patrons, évidemment, trouvent ridicule parce que bah, c'est très bien d'avoir de la main-d'œuvre pas chère et jeune. Et donc, c'est un rappel aussi des avancées qu'on a obtenues depuis. Pour revenir au droit de vote des femmes, c'est 45, donc c'est encore 9 ans plus tard. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui ont été faites et qui ont fait avancer à la fois la condition de la femme et la condition tout court, notamment par exemple des ouvriers.
Alors, on va découvrir cette toute nouvelle série. Est-ce que là, au niveau de cette collection, est-ce qu'il y a encore des idées peut-être pour une quatrième série ?
Tout à fait, oui. Oui, oui, on y réfléchit. On y réfléchit, on en parle. Et ça se concrétise doucement, voilà.
Doucement mais sûrement donc.
Oui, j'espère bien, oui.
Les projets de Quad aussi en matière de production, Iris ?
On va tourner cette année un nouveau meurtre qui se passera à Aix-les-Bains. On a plusieurs développements en cours dont je ne parle pas encore, mais c'est plus une année de développement. On a tourné un film qui va être finalisé bientôt, je ne sais pas quand il sera diffusé, pour France 2 qui s'appelle « Ça va bien se passer » avec Mathieu Madénian et Léonie Simaga. Pour le coup, c'est très différent de ce que on a pu faire jusque-là parce que c'est une plongée dans le monde des assistants sociaux à Marseille sous forme de comédie douce amère réalisée par Slimane Baptiste Peroun. Je suis très fière de ce film qui est donc un pilote de série. Donc si tout se passe bien, il va y avoir une série après ça.
On a hâte évidemment de découvrir tout ça. Merci beaucoup Iris d'avoir été avec nous. Si vous aimez effectivement tous les codes un peu de la saga familiale, de la saga d'été, si vous aimez tout ce qui est polar, vous aimez partir sur des fausses pistes, des vraies pistes, eh bien ne ratez pas l'été 36. Les deux premiers épisodes débarquent ce soir à 21h10 sur TF1 et sur TF1+. Merci beaucoup.
Merci à vous.
On va écouter un extrait juste après. C'est Fred Garçon, le réalisateur, qui nous rejoint. À tout de suite.
C'est nos premières vacances. Je veux qu'on en profite.
Bienvenue au Riviera.
Oh, Julia, quel plaisir de vous revoir.
Bonjour, Madame Ackerman.
Adrien Jacquard, 45 ans, tué entre minuit et 1h du matin. Personne ne quitte l'hôtel sans mon accord.
Adrien, tu t'en fichais. Tu l'as pris, tu l'as jeté, tu t'es comporté comme une garce.
Et voilà, on continue notre spécial L'été 36 qui débarque sur TF1, on le disait. Fred Garçon nous a rejoint. C'est le réalisateur, effectivement, de cette magnifique fresque. Bonjour Fred.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors Fred, c'est vrai que ce genre de série est d'une complexité et d'un challenge inouï à mettre en scène, une fiction en costume avec beaucoup de décors extérieurs aussi qu'il faut reconstituer ou adapter du côté de Nice. Comment on vit un tel challenge ?
C'est un challenge long, en fait. C'est une aventure pour ce qui est de la mise en scène qui prend plus d'un an et demi, presque deux ans. Et on le commence en se disant, c'est un Himalaya, mais en y allant étape par étape, tout va bien se passer.
Alors, moi, je me suis dit, quand j'ai vu, il y a des scènes, vous verrez, hein, sur la promenade des Anglais, à Nice, comment on fait pour arriver à donner effectivement cette illusion qu'on se retrouve dans les années 30 sur la promenade des Anglais à Nice, comment on reconstitue tout ça ?
Mais d'abord, c'est un. Moi, je m'étais dit, il faut que cette série ait du souffle, de l'envergure. Et c'était un des premiers mots et des mots d'ordre que je donnais à tous mes collaboratrices et collaborateurs. On a beaucoup fait de recherches. J'ai vu beaucoup d'archives. Il y a beaucoup d'archives disponibles de cette période, des jours heureux, des congés payés qui dé- découvre. Alors il y avait beaucoup de gens qui allaient de Paris à la Normandie, mais beaucoup de gens ont découvert la Méditerranée. Et pour le coup, c'était merveilleux de pouvoir recréer ce Nice qui a bien changé, mais la baie des Anges est toujours la même aujourd'hui. Donc il fallait recréer ce casino énorme sur pilotis qui existait avant Deuxième Guerre mondiale, donc pendant cet entre-deux-guerres, et l'arrivée de tous ces ouvriers venant de la France entière et qui venaient clasher avec les classes plus aisées qui venaient en villégiature depuis presque un siècle.
Alors Fred, c'est vrai que cette collection, on a entendu parler depuis longtemps, depuis le bazar de la charité, que la volonté vraiment, c'était de faire une trilogie. Donc il y a eu Les Combattantes, qui avait été réalisée par Alexandre Laurent. Je crois que vous êtes très amis tous les deux. Alexandre était très pris sur Cat Size déjà.
Alors on se connaît bien avec Alexandre. Été 36 est différent dans la mesure où le bazar de la charité et Les Combattantes partent d'une période historique dramatique à chaque fois, un événement dramatique ou une période de guerre. Là, c'était vraiment l'opposé, en fait. C'était le contraire. C'est une période heureuse, en fait, qui est l'arène, qui est le panorama de l'été 36. Donc en ça, le point de départ était très, très différent. Et du coup, il s'agissait de partir du sourire, du soleil, pour s'attacher aux drames et aux atermoiements de chacun et chacune. Là où j'imagine le bazar de la charité comme Les Combattantes, le drame historique était la base de la narration. Donc en ça, c'est très très différent. Donc peut-être qu'on peut parler d'une collection, j'imagine, mais non, on n'a pas eu le temps de se donner de tuyaux. Et il se trouve que
une collection dans le fait où c'est quatre femmes encore qui sont vraiment au cœur des intrigues.
Absolument, c'est quatre destins féminins. L'une espiègle, l'autre rigoureuse, la troisième passionnée et la quatrième avec une ambition presque politique, en fait. Sociale. Donc oui, c'est l'histoire de quatre grands destins d'émancipation féminine.
Alors, ce que j'aimais aussi, et ce qui est complètement différent par rapport aux combattantes et au bazar de la charité aussi, dans l'été 36, c'est qu'il y a, on sent un petit peu l'influence Agatha Christie, Cluedo, puisque tout démarre effectivement par un cadavre qui est retrouvé dans une chambre d'hôtel, et on va repartir en arrière pour voir un peu comment le destin de ces femmes vont s'entremêler. C'est ce qu'on va découvrir en tout cas dans le premier épisode. On va en parler d'ailleurs dans quelques instants avec Nolwenn et Sophia. Mais c'est vrai qu'il y a toute cette enquête qui va nous mettre nos aussi, spectateurs, sur des fausses pistes, sur des vraies pistes peut-être par moment, c'est ce qu'on découvrira au fur et à mesure des épisodes. Et quand on lit un scénario comme ça, ça doit être génial.
Alors vous parlez d'un scénario, mais c'est 6 scénarios, hein. C'est 6 épisodes. Donc c'est une grande arche dramatique, mais c'est 6 épisodes. Oui, c'est très amusant de ramener cette espièglerie et ce mystère qui sont inhérents à l'enquête. Et c'est en ça que le personnage qu'interprète François-Xavier de Maison est formidable. Il est épatant. Et effectivement, on avait des références de grands classiques d'Agatha Christie. Le crime de l'Orient Express est beaucoup cité dans le récit. Mais aussi, nous, en tête, enfin comme metteur en scène, j'avais pas mal en tête mes émerveillements d'enfant au cinéma, allant voir Mort sur le Nil, Le crime de l'Orient Express. Donc il y a un peu de ça aussi. Et puis, les références plus modernes de Sherlock Holmes, de Guy Ritchie par exemple.
Il y a des scènes avec énormément de monde, que ça soit des comédiens mais aussi de la figuration. Comment on articule tout ça aussi quand on a souvent à la télé l'habitude de voir 2, 3, 4 personnes sur une scène. Là des fois il y en avait 10, 12, des réunions de famille, des choses en public avec des dizaines voire peut-être des centaines de figurants. C'est plus compliqué.
Alors oui, c'est plus vaste, mais il s'agit toujours de raconter une histoire. Du plus petit court-métrage à une fresque historique aussi vaste que celle-ci, il s'agit de raconter les personnages. Pour la mise en scène, c'est du pain béni de pouvoir diriger des centaines de figurants, parce que c'était ça dont il s'agit, des voitures, des bateaux. Et vous avez raison, beaucoup de scènes avec 8, 9, 12, parfois 14 personnages principaux dont on suit le cours.
Je pense à la scène du pique-nique, par exemple, à la fin du deuxième.
Voilà, il y a celle-ci, il y a des scènes de gala, de concerts, dans lesquelles nos personnages dansent presque du regard les uns vers les autres. Ça, c'est intéressant, c'est de la pure mise en scène. C'est de la mise en scène à plusieurs volets, c'est-à-dire qu'il y a les mouvements de foule, les mouvements de voiture, que font ensuite les personnages principaux, comment ils s'insèrent dans cette chorégraphie générale, que font-ils les uns par rapport aux autres, où sont-ils placés, qui va vers qui. C'était un travail de longue haleine, qui nécessite une grande préparation, pas mal de répétitions, et aussi une envie, une vision de chorégraphie générale, de la première ligne du scénario 1 à la dernière ligne du sixième volet.
Fred, c'était quoi la scène la plus redoutée en tant que réalisateur ?
Alors, il y en a plusieurs. C'est un spectacle rare, hein, que une fresque historique aussi vaste. Il y avait trois scènes que je voulais être magistrales. Il y en a une qui se situe dans l'épisode 1, qui est un grand concert d'un espèce de Sinatra français de l'époque, un Reventura.
Joe Simon.
Joe Simon, qui est interprété par mon compositeur de toujours, Pascal Lafat. Donc, c'était très amusant, ça aussi, de lui donner un personnage, alors qu'on travaille depuis très longtemps ensemble et qu'il est compositeur de musique de films et de séries. C'est lui qui compose la musique de la série. Cette séquence était intéressante et compliquée à mettre en scène, mais tellement savoureuse. Et vous avez raison, il y a des scènes de pique-nique chic avec un panorama qui fait intervenir 12, presque 14 personnages qui ont tous des enjeux différents. Et là, c'était redoutable, mais dans le bon sens du terme. C'était très très excitant à imaginer.
Deux scènes que vous découvrirez d'ailleurs dans les deux premiers épisodes. En tout cas, l'été 36 débarque sur TF1. On va parler de Julia et on va parler dans un instant d'Eugénie, puisque Nolwenn Leroy et Sophie El-Saïdi vont nous rejoindre. Merci beaucoup, Fred, d'avoir été avec nous pour nous parler de l'été 36. C'est notre grande spéciale aujourd'hui. Constance Gay aussi, la semaine prochaine, viendra nous parler de Léonie. Très fan de Joe Simon, d'ailleurs. Le personnage de Léonie, on va en parler avec elle aussi. Et on va en parler pendant trois semaines, comme ça. Ça va être chouette. On va déguster et découvrir cette magnifique série. Merci beaucoup, Fred, et à bientôt.
À très bientôt, mais bonne dégustation du coup.
Un meurtre, c'est d'abord un mobile.
Faut que je récupère le dossier de l'affaire au commissariat. Comme ça, j'aurai de quoi mener ma propre enquête.
Mais quelle enquête ?
T'approches plus jamais de ma famille. Il faut qu'on parle de ce qui s'est passé hier soir.
L'été 36, prochainement sur TF1.
Et voilà, on pouvait pas rêver plus beau cadeau, hein. Je vous avoue, elles sont là toutes les deux. Chose promise, chose due. Sophia El-Saïdi et Nolwenn Leroy sont avec nous. Si on m'avait dit ça il y a 22 ou 23 ans, je l'aurais jamais cru. Bonjour à toutes les deux.
Nous non plus, hein, je crois. Nous non plus. Ah oui, totalement. Bonjour.
Merci d'être là toutes les deux pour cette fresque populaire qui a tous les codes de la saga familiale, du polar à la Agatha Christie. Il y a tellement de choses qui s'entremêlent. Quand on lit un scénario comme ça toutes les deux, est-ce que ça c'est un cadeau, déjà?
Ah bah, dans tous les cas, ce genre de projet est un cadeau pour un acteur. Le côté historique, le côté très riche de tous ces destins qui s'entremêlent, la toile de fond sociale, puis évidemment le suspense du polar. Tout est mélangé dans cette série, ce qui la rend, à mon goût, vraiment riche.
Nolwenn.
C'est un projet qui coche toutes les cases. C'est vrai que c'est une série historique de grande envergure, avec de beaux personnages, une série populaire, comme vous le disiez, mais d'une grande qualité, où rien n'est laissé au hasard, chaque détail, beaucoup de subtilité dans le scénario, dans les décors, dans les costumes, tout. Enfin, c'est vraiment un projet qui ne se refuse pas.
Alors justement, Nolwenn, Julia est gouvernante en chef à l'hôtel. On va s'apercevoir que c'est certainement le personnage le plus mystérieux, la plus mystérieuse des quatre.
Et oui, elle est mystérieuse parce que elle se doit de garder une certaine rigueur, une droiture inhérente à la fonction qu'elle occupe à l'hôtel au Riviera, de gouvernante en chef. Mais à la fois, elle fait face à un vrai questionnement et se retrouve un peu acculée, en fait, où elle est obligée de faire des choses qu'elle se pardonne pas vraiment. Pour le bien de sa fille, pour pouvoir payer le pensionnat de sa fille. Donc elle va, il y a une vraie dualité en elle, mais on lui pardonne tout parce que ses choix, elle les fait toujours pas par amour, en fait. Elle s'occupe seule de sa fille, c'est une mère célibataire, elle est très très digne, c'est une battante. C'est un personnage qui est très intéressant à jouer, qui a beaucoup de subtilité et un vrai mystère, c'est certain.
C'est vrai que ce qui la caractérise aussi, Nolwenn, c'est qu'elle va devoir faire face aussi à une certaine addiction qu'on ne dévoilera pas. Bon, pas déflorer, mais en tout cas, effectivement, ça va faire partie intégrante aussi du personnage.
Oui, des mauvais choix, on va dire, du côté sombre de Julia. Mais encore une fois, toujours motivée par l'amour qu'elle porte à sa fille et par
la volonté de se sortir de ça.
La volonté de se sortir de sa condition et d'offrir le meilleur à sa fille. En l'occurrence, l'éducation, parce que pour elle, c'est la seule façon d'accéder à la liberté ultime lorsqu'on est une femme, c'est d'aller à l'école, et c'est un vrai message à cette époque.
Sophia, Eugénie, qui est donc la fille aînée de Henri de Pontaviscaron, incarnée par Sam Carman, et qui est aussi donc la grande sœur de Blanche. Eugénie, elle a fait le choix de partir dans un univers opposé au sien, issu de la grande bourgeoisie. Elle va plutôt se tourner par militantisme aussi un peu vers le monde ouvrier, où elle rencontre Jean, incarné par le beau Simon Herlaché. Et voilà, c'est vrai que c'est un personnage qui est complexe et qui a coupé tous les ponts avec sa famille et qui est venu à Nice, effectivement, sur demande de son père pour la retrouver, parce qu'il a des choses à lui dévoiler qu'on verra ce soir, évidemment.
Oui, c'est vraiment ce qui m'a donné envie de faire cette série, c'est la complexité de ce personnage qui apparemment est très libre, parce que elle choisit son destin, elle force son destin, elle quitte le milieu dans lequel elle a grandi par conviction, par amour. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est d'aller raconter les conséquences de ce genre d'acte, quand d'un coup on renie une partie de soi, qu'on ne travaille pas dessus, qu'on ne conscientise pas. Quelles sont les conséquences? Et moi, je pense qu'il y en a des très très fortes. Ça crée des blessures intérieures très puissantes, très inconscientes pour le coup. Et ce que j'ai aimé, c'est d'aller raconter cette dualité entre ces blessures vraiment présentes, mais en même temps cette conviction qu'elle a d'aller bien, parce que ben moi je vais bien parce que j'ai choisi ma vie. Mais je pense que c'est beaucoup plus insidieux que ça. Et puis aussi, ce qui était intéressant, c'est d'aller raconter ce qui reste aussi de votre éducation. Elle a passé 17 ans dans la haute bourgeoisie française. Ça laisse des traces. C'est des années pendant lesquelles vous êtes façonné en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, et ça laisse des traces énormes. Et moi, ce qui était très intéressant, c'est d'aller raconter cette femme dans ce milieu ouvrier, mais avec tous ces codes qui sont encore en elle, même si elle ne se l'avoue pas, même si elle les rejette, ils sont là. Et voilà, moi, c'est un trajet de rédemption, c'est un trajet de réparation intérieure, le rôle de Génie. Et moi, vous savez que je suis passionnée par ces sujets-là depuis longtemps, et d'aller encore une fois pouvoir raconter à l'écran que si ça va pas dans sa vie, c'est ok, et qu'il y a une possible porte de sortie. Moi, je suis toujours très heureuse d'aller pouvoir raconter ça et de me dire, s'il y a une personne derrière son écran qui se dit, ah ok, moi aussi je peux aller mieux, moi aussi je peux me guérir, moi aussi je peux enfin trouver une sérénité, un alignement, bon, moi j'ai tout gagné.
Alors ça va commencer par une sorte de cluedo, hein. Dès le départ, on va découvrir effectivement ce procureur détesté de presque tous. Presque le meurtre de Jacquard, ce qui ouvre beaucoup de pistes, effectivement. Et on va très vite, hein, ça c'est pas un secret, mais on va très vite savoir que Génie, elle a eu une relation avec lui par le passé. Et c'est un personnage également très complexe. Julia va être embarquée aussi, malgré elle, dans cette histoire, puisqu'en étant gouvernante en chef, elle a peut-être vu ou entendu des choses aussi. Une sorte de cluedo, c'est toujours hyper intéressant, parce que ça lance plein de fausses pistes, ah, peut-être de vraies aussi, c'est génial.
Ils sont multiples là, effectivement, jusqu'au bout du bout du bout. Oui, c'est vrai que le rapport avec ce personnage de Jacquard, et d'ailleurs c'est intéressant parce qu'on avait joué ensemble précédemment, et avec Arnaud Binard qui incarne le personnage de Jacquard, et c'est vrai que le rapport là est très différent. On est vraiment, il y a un affrontement terrible entre eux, et c'est un très beau rôle aussi pour Arnaud.
Quel souvenir vous garderez toutes les deux de ce tournage?
Le plaisir réellement d'être dans une ambiance de joie, parce que la toile de fond quand même de cette série, c'est la joie. On est en 1936, ce sont les premiers congés payés, la première fois que les ouvriers peuvent aller en vacances en étant payés, ce qui pour nous paraît totalement normal, hein, mais pour eux complètement fou. Donc c'était vraiment super de se dire, malgré tous les enjeux, malgré les tragédies de chaque personnage, on est quand même sur une toile de fond de joie. Et donc on avait quand même ce leitmotiv là qui revenait tout le temps de nous dire. Et puis d'arriver aussi et de voir 100 figurants faire la fête, parce que il y a pas mal de balles, il y a des galas, et donc il y avait quand même une ambiance assez lumineuse sur le tournage, et qui a déteint sur nous. On se sentait bien, puis on a passé un long moment aussi dans le sud, dans la région de vers Nice et aux alentours, et donc c'était quand même assez agréable de se réveiller face à la mer ou de se faire maquiller pas loin de la plage, quoi. Il y avait quelque chose qui fait qu'on était très très heureux. Et puis d'être aussi en bande, on était beaucoup ensemble, ce qui est assez rare dans les films, parce qu'il y a des fois on tourne des films et on ne croise pas certains acteurs parce qu'on fait pas partie des mêmes scènes. Là, pour le coup, on était hyper souvent en troupe. Il y avait presque la joie de retrouver une troupe de théâtre où on passait des journées à 10 ou 12, et forcément ça décuple le plaisir que de le partager. Donc moi je retiendrai vraiment un plaisir
la choralité de l'ambiance.
Ouais, exactement.
Ouais, c'est ça. Tout à fait. Ah ouais, vraiment. Vraiment, ça se ressent. Et puis la sincérité dans nos rapports, au-delà du film aussi, c'est vrai que ça a servi, je pense, le jeu de chacune. Enfin, on s'est bien trouvé. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on est toutes faites du même bois. Le casting a été vraiment bien fait. Il y a un bel équilibre entre nous, entre toutes nos énergies, nos personnalités.
Je pense que t'as raison. C'est un plus quand on a quatre rôles de femmes et que les quatre actrices s'entendent si bien. Je pense que ça ramène un truc à l'écran, comme tu dis, d'une grande sincérité entre nous, d'un grand soutien. C'est pas forcément évident parce qu'on se dit il y a quatre premiers rôles, quatre actrices, avec les images qu'on a de ça et les raccourcis un peu trop rapides, on peut se dire bon, ça a dû être compliqué. On m'a posé la question, hein. On m'a dit mais comment ça s'est passé, quatre femmes actrices. J'ai dit, ah bon, et pourquoi? Ça s'est excessivement bien passé. On était à l'inverse hyper soudés, hyper soutenus, et je pense que ça se voit à l'écran. Même si on n'est pas souvent toutes les quatre, quand on est toutes les quatre, il y a quelque chose de vrai entre nous, et ça s'est passé hors caméra.
Ouais, puis il y a quelque chose d'assez complémentaire entre vous quatre, Constance qui est toujours hyper joyeuse, Julie qui est toujours hyper sérieuse, concentrée, vous deux vous connaissez depuis plus de 20 ans, donc c'est vrai que ça force plein de choses tout ça.
Bah oui, bien sûr. Ouais, non, mais c'est on sait, et puis de se reposer les unes sur les autres. Enfin, voilà, il y a on parle de sororité, de bienveillance, qui pour le coup des mots très employés de nos jours, mais qui ont vraiment pris tout leur sens lors du tournage. Ouais, vraiment.
Vous voulez savoir quel secret cache Eugénie, notamment à Jean? Il sera dévoilé ce soir sur TF1 dans l'été 36. Vous voulez savoir quels sont les secrets que Julia cache, mais elle aussi, elle en a pas mal, et on va pas tous les découvrir ce soir, je vous le dis, tellement il y en a. En tout cas, moi je trouve absolument génial pour toutes les deux, c'est que vous êtes la preuve vivante, toutes les deux, c'est qu'on peut être multi-artiste, qu'on peut faire une carrière dans la musique, mais qu'on peut aussi justement être comédienne, qu'on n'est pas forcément dans des cases en France, et ça je trouve que vous en êtes la preuve vivante, donc merci pour ça.
C'est très intelligent, non, mais de souligner le fait que, oui, d'être un artiste multiple, c'est, je trouve que, un artiste complet, et puis il y a une vraie correspondance entre la musique, entre le fait de jouer, d'incarner des personnages, d'être connecté à nos émotions et de raconter des histoires, qu'on le fasse en chantant ou en jouant. Donc merci beaucoup.
Moi, j'ai une petite chanson préférée de Nolwenn, c'est juste pour me souvenir. J'avoue que celle-là, moi, c'est une de mes préférées. Alors, je vais pas la chanter là, mais on va s'écouter pour terminer, en tout cas, en beauté, cette spécialité 36, parce que si je chante, il risquerait bien de mouiller toute la nuit. Donc, ça m'embêterait quand même pour ce début de l'été 36. Merci beaucoup, toutes les deux, d'avoir été avec nous. C'est un vrai cadeau de vous avoir eu. Je vous dis à bientôt.
À très bientôt. Merci à vous.
Merci beaucoup et à bientôt.
Voilà que le vent rôde, tourne contre la falaise, que la marée taraude. Ce ne sont pas des larmes, ni même de la rosée, que mon visage réclame. Juste un peu de buée, un peu d'eau et de sel, juste pour me souvenir que derrière les nuages du ciel se cache ton sourire. Juste un peu d'eau sur les lèvres, juste pour me souvenir de ce dernier baiser amer, juste avant de t'enfuir. Dis-moi juste que tu es ici, sous l'océan enfoui, dans les bras d'une sirène qui te chantera toute la nuit, te chantera toute la nuit. Marche sur la grève où les bateaux s'échouent, mais jamais la marée ne ramène nos hommes jusqu'à nous. Le vieux phare allumé, tranchant comme une lame, me rappelle que Cinca avait laissé chez lui sa femme qui marchait dans le sel, juste pour se souvenir que derrière les vagues du ciel se cachait son sourire. Juste un peu d'eau sur les lèvres, juste pour me souvenir de ce dernier baiser amer, juste avant de t'enfuir. Dis-moi juste que tu es ici, sous l'océan enfoui, dans les bras d'une sirène qui avant de t'enfuir. Dis-moi juste que tu es ici, sous l'océan enfoui, dans les bras d'une sirène qui te chantera toute la nuit, te chantera toute la nuit.
On change de chaîne dans un instant, on va parler de L'Or Bleu qui débarque mercredi sur France 2 avec Aline Panel, la productrice, et Barbara Probst, l'héroïne. À tout de suite.
Bouge pas, chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé.
Et les bas-fonds qui tombent, volons, valsons, dansons. Quand le monde vacille, sur un pas, sur un fil, à nos corps on mêlés, nos mains nouées pour oublier nos peines. Que rien ne nous retienne. Dansons au-dessus des grands vides, que nos souffles nous guident, les corps à l'unisson, jouez violon, dansons. Envers et contre nous, doux rendez-vous flottant, front contre front, flocons sur l'horizon, flocons sur l'horizon, dansons pour être et rester droit. Ce qu'on se le doit pour tous les immobiles, tous les sans voix ni loi, parce que c'est inutile, parce que toi et moi, nos visages, nos bras, malgré tout, puisqu'on ne peut danser que debout. Inventons nos vertiges avant que l'on se fige, quand l'univers hostile, une île dansant au-dessus des abîmes, aux arêtes des cimes, tournons puisque le monde ne tourne plus rond.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé est consacré à la saga de l'été de France 2 qui fait son grand retour sur France.tv déjà en ligne et sur France 2 dès mercredi soir à 21h10 avec les deux premiers épisodes. Ça s'appelle L'Or Bleu et c'est produit par notre amie Aline Panel qui est justement notre invitée. Bonjour Aline.
Bonjour Alain.
Merci d'être avec nous. Alors moi, la première chose que j'ai aimé, Aline, et tu le sais que j'adore ça, je suis assez fan et j'ai l'impression un peu comme toi, c'est de traverser les époques quand on regarde une série, encore plus une saga d'été, parce que c'est un peu le retour de la saga d'été avant l'heure sur France 2, où on va basculer de 1986 à 2026. On va osciller comme ça pour comprendre un peu tous les enjeux auxquels va devoir faire face l'héroïne Flore, incarnée par Barbara Probst.
Absolument, par rapport à ton sujet, c'est-à-dire que comme on est sur la question de la raréfaction de l'eau, je voulais pouvoir l'incarner visuellement et donc sur des époques plus anciennes, où on voit que la quantité et la gestion de l'eau sont différents. Et donc, ça m'a semblé très télévisuel de pouvoir le voir sous forme des couleurs, mais aussi des costumes associés à ces époques-là, des habitudes, du coup, tout, en fait, les relations hommes-femmes, etc. Ce qui était amusant, c'est dans le document de travail qu'on appelle Bible, qu'on a envoyé à France Télévisions à l'époque, on a postulé avec cette saga d'été. On avait un paragraphe, qui était plus qu'un paragraphe d'ailleurs, sur plusieurs pages, qui s'appelait le fil de l'eau. Donc on avait les arches par personnage, chacune des trois femmes, etc. Et puis on avait le fil de l'eau qui est lui-même un personnage. Et en fait, c'est ce qui relie tous nos personnages et toutes les époques.
Il y a un casting de dingue, hein, dis-moi.
Ouais, il y a un beau casting qui allie à la fois des têtes connues, d'ailleurs, qui sont des acteurs aimés du service public et des spectateurs de France 2, comme Éric Caravaca, Valérie Carpentier, Guylaine Londez, et aussi des acteurs un peu plus nouveaux, un peu plus jeunes aussi, Barbara Props, Tom Lett, Samir Boitard, et enfin un tas d'acteurs qu'on a peut-être beaucoup moins vus et que je suis moi personnellement très très fière et très heureuse de faire découvrir. C'est aussi mon rôle de productrice, je l'ai fait par exemple avec Montmartre. Et là, je l'ai fait sur le service public, qui m'a vraiment laissé carte blanche. C'était très amusant parce qu'on devait faire ce double casting, étant donné qu'on est sur plusieurs époques. Et donc, il fallait trouver des comédiens qui ressemblent vraiment à nos comédiens castés pour le présent et qui puissent les incarner 35 ans plus jeunes. Et qui, en même temps, figurent chacun des... Enfin, il y a trois familles, il y a trois clans. Donc, il y avait un tas de contraintes pour que ce casting soit cohérent, nous perde pas. C'était très amusant à faire et c'était très stimulant de se dire qu'on allait avoir... D'un côté, la possibilité à des acteurs de se faire connaître et aussi la possibilité de proposer aux spectateurs un casting rafraîchissant, renouvelant, avec des personnages dont on dit qu'ils sont jeunes, mais ils sont vraiment jeunes dans leur incarnation. Et ça, c'est vraiment très, très chouette parce que ça raconte vraiment l'époque aussi, c'est-à-dire dans les années 80, quand on se mariait, on avait 25 ans, on n'en avait pas 35 ou 40. Et donc, il y a quelque chose aussi de nostalgique là-dedans, de revenir sur cette époque avec des visages qui sont vraiment juvéniles.
Et on n'a pas oublié les anciens visages, hein. Je vois des sagas d'été. Parce que quelqu'un comme Bernard Verlet, il va rappeler des souvenirs à beaucoup de monde. Et quel bonheur de revoir Bernard dans le rôle de Milou Ravanel, hein, justement, dans cette saga, ou encore Sylvie Granotier qu'on a vu dans la série 7e ciel sur OCS il y a quelques temps. Et c'est vrai que c'est un couple à l'image qui est magnifique.
Oui, et nous on voulait vraiment mettre beaucoup de soins sur le casting de ce couple qui est aussi une histoire d'amour c'est le cœur de la série au niveau de l'histoire d'amour, justement une espèce de destin qui devait se rencontrer, je ne vais pas spoiler non plus complètement, et d'amour possible alors qu'on se rencontre âgé, on le sait assez vite depuis le début, puisque la mère de notre héroïne rencontre Milou au moment du mariage de notre héroïne, donc elle est déjà plutôt jeune, si on peut dire. C'est un premier amour pour Milou, donc c'est aussi original. C'est des histoires d'amour faites de tendresse, de destinée, et voilà. Donc on voulait avoir beaucoup de cœur dans les comédiens qui allaient incarner ça, et c'est vrai que c'est un bonheur pour nous d'avoir travaillé avec ces deux très grands acteurs. Et Bernard Verlet en particulier, qu'on retrouvait, parce que moi, pour le coup, je le connaissais comme une spectatrice quand j'étais plus jeune, et j'avais jamais travaillé avec lui, et qu'il a accepté de venir faire ce rôle, était vraiment une grande chance pour nous.
Alors, Barbara Props, on a Samir Boitard, Tom Leb, Éric Caravaca, Déborah Cray, Sylvie Granotier, Bernard Verlet, Valérie Carpentier, Éric Savin, Guylaine Londez et plein d'autres que vous allez pouvoir découvrir évidemment dans cette toute nouvelle série. Ça s'appelle L'Or Bleu. Ça démarre sur France 2. Ça sera mercredi soir 21h10. Si vous êtes impatient, il y a déjà l'intégralité qui est sur France.tv. Alors, n'hésitez pas, en tout cas, à aller la découvrir. Et juste avant de se quitter quand même, il y a des projets. Je sais que tu avais envie, après Montmartre, de faire une deuxième série pour nous faire découvrir un peu les petites histoires cachées de Paris avec Montparnasse, par exemple. Est-ce que ça avance, ce projet ?
Oui, c'est une grande histoire sur les années folles, qui va s'appeler donc les années folles, qui est cette période entre les deux guerres. Là-dessus, on greffe une grande histoire de fiction comme on sait faire.
Bonne préparation à toi sur cette série qu'on découvrira, j'imagine, l'année prochaine sur TF1, j'espère, ou l'année d'après. Mais en tout cas, ça se prépare. Merci beaucoup, Aline. À bientôt.
Je t'en prie. À bientôt. Au revoir, Alain.
La nappe phréatique, elle s'assèche. Et la rivière, elle coule plus. S'il vous plaît, s'il vous plaît.
Non, on n'en est pas là.
Les ravanelles, les domaces et les pageons, là, vous avez tous des parts dans la station de pompage.
Leur seul but, c'est de s'approprier la distribution d'eau pour s'en mettre plein les poches.
Nous avons décidé d'appliquer la même règle pour tout le monde. 50 litres d'eau par jour, par personne et par foyer.
C'est ça l'avenir que tu veux pour nos enfants.
On a pu identifier la victime dans la fosse.
Il s'agit bien de votre maman.
Sa mort remonte à la fin des années 80.
Papa, tu m'as toujours dit qu'elle était partie pour un autre.
Je l'ai pas tué.
Et on continue à parler de l'or bleu avec son héroïne qui est avec nous, Barbara Probst, qui nous rejoint. Bonjour Barbara.
Bonjour Alain.
Écoute, moi je suis très heureux de t'avoir parce que c'est vrai que je trouve que là, tu as d'une un très très joli rôle. Quand on reçoit un magnifique scénario comme ça, est-ce que c'est toujours un cadeau pour une comédienne ?
Bah évidemment, d'autant plus que là, ça arrive à un petit endroit de mon chemin de comédienne où voilà, on m'a apporté ce scénario, je n'ai pas eu à passer de casting. Donc c'est une double reconnaissance de la part de la chaîne, voilà, qui me fait confiance, et puis évidemment de notre productrice, toute cette équipe qui voilà me confie une très belle partition. Donc ouais, c'est formidable.
Comment tu la définirais, toi, Flore ?
Bah Flore, c'est une femme qui va vraiment de l'avant. Hein. Déjà, elle qui passe sa bicyclette, hein, son beau VTT.
Ça, c'est vrai.
Qui avance dans la forêt. Non, mais elle va vraiment de l'avant. Elle est en quête d'identité personnelle, elle est chargée d'ambition politique aussi, puisqu'évidemment il y a tout ce contexte autour de l'eau.
Ah oui, elle est engagée même, hein, je dirais.
Elle est doublement engagée, en fait. Elle est engagée d'un point de vue voilà, politique avec l'eau, et puis personnelle parce qu'elle est sur le point de se marier au début du premier épisode. Donc voilà, elle se retrouve confrontée à toutes ses grandes ambitions et ses choix de vie, et tout est bousculé par les événements voilà qui vont arriver dans ce petit village de Valouance, et elle va se retrouver à être un peu cette dernière pièce du puzzle, d'un grand puzzle familial. Et elle est pleine de vie et d'engagement, c'est quelqu'un qui, ouais, elle est formidable, cette Flore.
Alors c'est vrai qu'à la suite d'un effondrement lié à la sécheresse, on va découvrir un cadavre. Elle pense que depuis 35 ans, sa mère est partie à l'autre bout du monde et l'a peut-être abandonnée. Est-ce qu'elle va apprendre des vérités ? Que va-t-il se passer ? Qui est ce cadavre justement découvert suite à ces effondrements ? C'est un peu tout ce puzzle que va devoir reconstituer Flore. Et puis ce qui est chouette, c'est vraiment on va rebasculer dans l'été 86 avec une bande-son carrément dingue qui va vraiment nous faire revivre ces années-là et qui va nous faire comprendre au fur et à mesure effectivement ce qui est en train de se jouer. Oui, pour Flore.
Moi, c'est ce qui m'a d'ailleurs vraiment séduit dans le scénario aussi, c'est toutes ces temporalités, parce qu'évidemment, il y a ce dont tu viens de parler, les années 80. On a même un petit peu d'années 40, et on se rend compte comme ça que tout d'un coup, il y a une dimension transgénérationnelle. Moi, j'ai cette chance formidable d'être entourée quand même d'un casting grandiose. Enfin, ça aussi, tu parlais de cadeaux tout à l'heure, mais ça, c'est un vrai cadeau, vraiment, pour moi aussi, d'être aussi bien entourée par des acteurs et des actrices que j'admire et avec qui j'ai adoré jouer. Et notamment, Deborah Craig, qui joue le personnage de ma mère dans les années 80.
Ça fait super bien, en plus, entre vous deux. C'est vrai que physiquement, c'est vraiment chouette, hein.
Ah bah écoute, ça me fait plaisir de te l'entendre dire, mais surtout nous c'était, en fait il se trouve que Déborah c'est une amie à la vie, donc quand on a su toutes les deux qu'on se retrouvait sur un projet commun, on était évidemment emballés. Très vite on s'est rendu compte que nos personnages ne se croisaient pas puisqu'elle faisait partie de cette temporalité des années 80 et moi de la temporalité plus contemporaine, mais en revanche on a vraiment voulu travailler ensemble à construire ce lien, cette filiation comme ça, s'est amusé à trouver peut-être des gestes en commun, des rebondissements comme ça qui se retrouvent d'une époque à l'autre, et donc c'était évidemment un travail génial à faire ensemble quoi.
J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cachotterie autour de Flore, entre son père qui lui a vraiment pas tout dit, on va découvrir plein de choses jouées par Eric Carvaca qui est génial, et Tom Leb, son petit ami à Flore, qui alors lui, je sais pas, je le sens pas, je sais pas pourquoi.
Eh ben écoute, je te laisse tout découvrir. Non mais enfin voilà, encore une fois, tous ces acteurs, j'ai envie presque de tous les nommer, ce qui va être très difficile parce qu'ils sont tellement nombreux, mais voilà, tu viens de citer Tom, Eric, Samir Boitard, Valérie Carcenti, Guylaine Lombez, évidemment. Enfin, voilà, toute cette équipe vraiment fantastique d'acteurs autour de moi. Et tous avec, comme tu viens de le dire, des secrets. Alors évidemment, on
tout
va avoir...
Tout ce qui fait la saga d'été qu'on aime.
C'est ce que j'allais dire, c'est tous les bons éléments d'une bonne saga, quoi. On a de la trahison, on a des amours déçus, des amours naissants, des secrets de famille. Et là, tout d'un coup, il y a toute cette dimension très contemporaine avec le sujet de l'écologie et de l'eau, qui n'est pas juste, voilà, une anecdote, en fait, dans l'histoire. C'est vraiment le point central. C'est par l'eau que tout se relie grâce à l'eau, et c'est assez intelligemment finement monté ensemble, quoi.
Et dès le premier épisode, hein, on va voir qu'il y a des ice contact avec l'enquêteur. Je sais pas, ces deux-là, j'ai l'impression aussi que il va peut-être se passer quelque chose. J'en sais rien. Je le sens.
Ah, tu crois?
Ah, je sais pas. T'as vu, je fais des pronostics. Hein. Dès le premier épisode, je commence à sentir des choses comme ça qui se passent. Mais évidemment, pour découvrir la suite, il va falloir regarder l'or bleu. Et puis, si vous êtes impatient, vous avez France.tv qui vous donne l'intégralité de la série que vous allez pouvoir binge-watcher ou dévorer, évidemment, à votre gré. Et ça, c'est vraiment chouette parce que vous allez voir, c'est très addictif, en tout cas. Et mercredi, vous allez découvrir les deux premiers épisodes. Et ça va durer comme ça pendant 4 semaines, évidemment, sur France 2 à 21h10. Barbara, tes projets, est-ce qu'il y a d'autres choses qui arrivent bientôt avec toi ?
Bah oui, j'ai eu la chance d'enchaîner avec une très jolie série, toujours pour France Télévisions, qui s'appelle Nourrice, que nous avons terminé de tourner cet hiver. Donc là, c'est en train de se terminer, les montages, tout ce qui suit.
Ça serait bien pour la rentrée, ça, la fiction télé de La Rochelle, ça serait cool, ça.
Bah, on croise les doigts, mais en tout cas, voilà, c'est une très belle série d'époque qui se passe à la fin du 19e, début 20e, sur le parcours de ces femmes qui arrivaient souvent de la campagne, du Morvan, là, notamment, pour nourrir les enfants des familles beaucoup plus aisées à Paris. Et donc, c'est toutes ces jeunes femmes qui étaient traitées comme du bétail. Et moi, j'ai la chance de jouer une sage-femme de l'Hôtel Dieu qui va prendre ses nourrices sous son aile et essayer de combattre le patriarcat de l'hôpital à sa façon, avec ses armes à elle. Donc, c'est un très beau rôle.
Bon, mon petit doigt venu doit se retrouver très vite, du coup.
Bah oui, j'espère. Et puis, a priori, sur Disney Plus aussi, une série anglaise qui s'appelle The War Between the Land and the Sea.
Ah oui.
Qui devrait sortir dans le courant de l'année, voilà.
Très bien. Eh ben, écoute, dis donc, plein de belles choses. En tout cas, merci beaucoup, Barbara. L'or bleu débarque mercredi sur France 2. C'est déjà en intégralité sur France.tv. À suivre, évidemment, avec attention. Et puis, on te dit à très, très bientôt pour la suite.
Avec grand plaisir.
À bientôt.
À très vite.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, on parlera de la sortie du film Tout va super de Patrick Cassir, qui sera notre invité avec Marie Colombe. Nos coups de cœur télé avec Scène de ménage et le grand prime Cap la Bretagne pour le mariage d'Emma et Fabien. Et David Morat et Anne-Elisabeth Blateau seront d'ailleurs nos invités. Et puis on parlera aussi du crime à Cluny qui débarque sur France 3.
Le rendez-vous des stars. C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Hey, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier en Nouvelle-Aquitaine. Des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les sorbets, crèmes glacées, cônes artisanaux et la nouvelle gamme de pots gourmands, Jade et Ali, disponibles dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Chute, on écoute la télé avec vos boutiques de prêt-à-porter Speak en Nouvelle-Aquitaine. Speak, c'est la mode homme, femme, des pépites chaque semaine pour tous les budgets. Mais Speak, c'est aussi un corner seconde vie pour les vêtements que vous ne portez plus. Alors n'hésitez pas. Plus de 15 boutiques Speak vous attendent en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toutes les adresses et la boutique en ligne sur speak.fr.